Lire ensemble.
Et à 9h, temps universel, 10h, ici à Paris, c'est l'heure d'un nouveau journal. Et c'est avec vous, Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. À la une, la Corée du Sud qui lance une inspection de tous les Boeing 737-800 après le crash dans la nuit de samedi à dimanche d'un avion faisant 179 morts. Un autre appareil du même modèle a rencontré un problème ce matin. Le 9 janvier, jour de deuil national aux États-Unis après le décès hier de Jimmy Carter, 39e président américain et prix Nobel de la paix, les hommages se multiplient. Au sommaire, également le week-end politique de l'Alliance pour la démocratie au Mali qui a marqué le grand retour de plusieurs des 11 opposants arrêtés en juin dernier pour tenue d'une réunion non autorisée. Et puis nous reviendrons sur l'annonce de Gazprom ce week-end. Le géant russe va arrêter au 1er janvier de livrer du gaz à la Moldavie, pays qui vient de réélire sa présidente, une pro-européenne. En Corée du Sud, les drapeaux sont en berne aujourd'hui et un deuil national de 7 jours décrété en hommage aux 179 victimes du crash d'un avion survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Les boîtes noires ont été retrouvées, devraient permettre de faire la lumière sur ce drame vraisemblablement lié à une collision avec des oiseaux, la pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays. Et ce matin, réaction de Séoul qui a annoncé lancer une inspection complète de tous les Boeing 737-800. La correspondance sur place pour RFI de Camille Ruiz.
Le président par intérim a ordonné une inspection générale de toutes les opérations aériennes du pays. Ce sont bien en effet les Boeing 737-800 qui sont particulièrement visés par cette annonce. Le gouvernement envisage des inspections spéciales des 101 modèles en activité sur le territoire, le même qui s'est écrasé dimanche. Ce lundi matin, heure coréenne, un autre avion a eu un dysfonctionnement avec ce dispositif essentiel, le train d'atterrissage, d'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. L'agence rapporte que c'est le même modèle, un Boeing 737-800. 800, la même compagnie, Jeju Air. Il a été obligé de rebrousser chemin. Le ministère a envoyé des inspecteurs de la sécurité sur les lieux à l'aéroport international de Gimpo, mais aucun lien entre les deux affaires n'a été établi de source sûre. Une des deux boîtes noires de l'avion qui s'est écrasée est endommagée selon les autorités. Les États-Unis pourraient participer à l'enquête. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, c'est le pire accident d'avion de l'histoire de la Corée depuis 1997. Camille Ruiz, Séoul pour RFI.
Toujours en Corée du Sud, Yoon Se-kyol va-t-il être arrêté? Les enquêteurs ont demandé ce matin à la justice d'émettre un mandat d'arrêt contre le président déchu près d'un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, fait inédit depuis la fin de la dictature militaire en 1987. Il a refusé hier et pour la troisième fois de se présenter à un interrogatoire. Yoon Se-kyol qui est aussi visé par une enquête pour rébellion, un crime passible de la peine de mort. Il est 4h03 à Washington. Le Time Magazine le voyait comme le meilleur ex-président des États-Unis. Le 39e président américain et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, artisan des accords de Camp David, traité de paix entre Israël et l'Égypte, qualifié de plus grand triomphe diplomatique du XXe siècle, est décédé hier à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, entraînant une pluie d'hommages. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains, dit Donald Trump. Pour Bill Clinton, Jimmy Carter a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste. Barack Obama salue pour sa part un homme remarquable. Une journée de deuil national a été décrétée le 9 janvier par Joe Biden, qui lui aussi s'est exprimé.
Aujourd'hui, l'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant remarquable. C'était un homme d'État et une icône humanitaire. Je l'ai côtoyé durant 50 ans. La vie de Jimmy Carter ne peut pas être mesurée par des mots, mais par ses actions. Il suffit de regarder ce qu'il a accompli. Il a travaillé à l'éradication des maladies, pas uniquement ici, mais autour de la planète. Il a œuvré pour la paix, en faveur des droits civiques, du droit de vote et d'élections libres dans le monde. Il a construit des maisons pour les sans-abri avec ses propres mains. Sa compassion et ses convictions ont changé et sauvé des vies partout.
Et de nombreux dirigeants étrangers ont également rendu hommage à l'ancien président américain qui a défendu, selon Emmanuel Macron, les droits des personnes les plus vulnérables. Le roi Charles III fait part de son affection pour celui qui a consacré sa vie à la promotion de la paix et des droits de l'homme. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, salue son engagement inébranlable envers la foi chrétienne et les valeurs démocratiques. Les rumeurs sur des milliers de morts ne sont pas fondées. Déclaration ce matin de François Bayrou qui appelle à une très grande prudence. Le Premier ministre a atterri ce matin à Mayotte, deux semaines après le passage du cyclone Chido, dont le dernier bilan fait état de 39 morts et 5600 blessés. François Bayrou arrivait avec 2,5 tonnes de matériel humanitaire, 5 ministres et la promesse d'un plan d'aide à la reconstruction en 2 ans, appelé Mayotte debout. Le sort de l'archipel doit faire l'objet d'un projet de loi spécial qui avait été annoncé par Emmanuel Macron. Le texte pourrait être présenté vendredi en Conseil des ministres. Toujours en France, dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot ne fera pas appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme et recruté des hommes sur Internet pour la violer. C'est ce qu'a annoncé ce matin son avocate. Malgré tout, un nouveau procès aura lieu devant une cour d'assises composée d'un jury populaire puisqu'une quinzaine des 50 accusés ont de leur côté fait appel. Il est 9h06 à Bamako, au Mali, où l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA, l'un des principaux partis politiques du pays, tenait ce week-end de sa 20e conférence nationale à Koulikoro, à une 50aine de kilomètres de la capitale. Événement marqué par le retour sur scène de plusieurs des 11 opposants arrêtés en juin dernier pour tenue d'une réunion non autorisée et libérés 5 mois plus tard. La correspondance pour RFI de Serge Daniel.
La réunion politique s'est déroulée en présence d'au moins 5 des 11 opposants maliens récemment libérés après plus de 5 mois passés en détention. Tous ont été applaudis. Ensuite, leur porte-parole s'est exprimé devant les nombreux militants. Moustapha Diko, également 4e vice-président du parti ADEMA, a commencé par rejeter les accusations d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de trouble à l'ordre public retenus contre le groupe des 11. Il a ensuite réclamé la libération, je cite, de tous les autres détenus d'opinion et le retour au pays des exilés politiques. Fin de citation. Le retour à l'ordre constitutionnel reste une préoccupation d'une bonne frange de la classe politique locale. À la rencontre, plusieurs représentants de formations politiques l'ont rappelé. Non à la pensée unique, a par exemple publiquement affirmé l'un des intervenants pour critiquer la junte, alors qu'un autre a rappelé « Pour des raisons liées à l'insécurité, la vie s'est arrêtée dans plusieurs localités du Mali. » Serge Daniel, RFI.
En Géorgie, la colère des pro-européens ne retombe pas 24 heures après l'investiture de Mikhail Kavelashvili. Le nouveau président géorgien pro-russe a prêté serment hier matin pour succéder à Salomé Zourabichvili, ce qui n'a pas empêché les manifestants pro-européens de redescendre dans les rues hier, carton rouge à la main, en référence au passé de footballeur du nouveau chef d'État. Notez également qu'en Croatie, le président sortant Zoran Milanovic a manqué de peu de remporter la présidentielle dès le premier tour. Hier, il a remporté 49% des voix, bien au-delà des 37% que lui donnaient les sondages. Il devra affronter dans 2 semaines le candidat conservateur. Gazprom dit stop. Le géant russe a annoncé ce week-end qu'il allait arrêter de livrer du gaz à la Moldavie à partir du 1er janvier. Raison officielle, des dettes impayées par le pays qui vient de réélire Maia Sandu, la première présidente moldave pro-européenne. Les explications de Claire Fage.
Gazprom justifie sa décision de réduire à 0 m³ par jour ses livraisons à la Moldavie par un différend financier. Une dette que le géant russe estime à 700 millions de dollars. Les autorités de Chisinau contredisent ce montant et dénoncent l'utilisation par la Russie de l'énergie comme d'une arme politique, selon les mots du Premier ministre moldave. Le gaz russe continuait d'alimenter la centrale thermique de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie depuis le début de la guerre en Ukraine et il fournissait encore 30% du courant consommé dans le pays. Mais la Moldavie, où la présidente pro-occidentale Maia Sandu vient d'être réélue, s'est dite prête à faire face. Depuis la mi-décembre, les éclairages sont limités, les horaires de production industrielle décalés des consommations de pointe des ménages. L'annonce de Gazprom intervient alors que l'Ukraine a décidé de ne pas renouveler au 1er janvier son accord de transit avec le géant russe, source de préoccupation non seulement pour la Moldavie, mais aussi pour des pays de l'Union européenne alliés de Moscou, tels que la Slovaquie, encore très dépendante du gaz russe, et dans une bien moindre mesure, la Hongrie.
Claire Fage. Et puis un mot du Vendée Globe, Johan Richaume pourrait perdre sa place de leader aujourd'hui puisqu'au pointage de 7h heure de Paris, Charlie Dalin n'était plus qu'à 6000 nautiques de lui, c'est-à-dire moins de 10 km. On le saura au prochain pointage dans moins d'une heure. Et puis notez l'abandon du tenant du titre Yannick Bestaven, victime d'une importante avarie sur son système de barre vendredi. Il n'a pas réussi à le réparer. Il est 10h09 à Paris, 9h09 en temps universel tout de suite. Ses priorités santé sur RFI.